Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous revoici donc ensemble pour cette nouvelle saison de nos lectures en liberté après la longue pause estivale. Et je vous propose de démarrer donc ce soir avec un texte de Maya Canaan Mako, dont le titre est « Avant qu'elle s'en aille ». Ma mère. Longtemps, ma mère a arpenté le monde. À 20 ans, elle a embarqué à bord de l'Elizabeth pour rejoindre l'Amérique et vivre ailleurs. Plus tard et tout au long de sa vie, je l'ai vue projetant et préparant ses voyages, sautant d'un train ou d'un avion à l'autre, aussi à l'aise dans une province reculée de Chine que dans une ville africaine. C'était une infatigable voyageuse. Et puis, elle a vieilli. Depuis quelques années, son rythme s'est ralenti. Elle a commencé par réduire les distances et la durée de ses voyages. Elle s'est mise à les annuler, trouvant qu'il faisait trop froid ou trop chaud, qu'elle était trop fatiguée, que ce n'était pas le bon moment. Or, ma mère et moi vivons éloignés, elle à Rome, moi à Paris. J'ai donc entrepris de venir la chercher pour qu'elle fasse encore ce trajet-là, pour que son horizon reste ouvert. Pendant un temps, tout s'est bien passé. Elle était rassurée par ma présence à l'aller, et je la déposais à l'aéroport à la fin de son séjour. Nous enregistrions alors ensemble son bagage au comptoir et je la saluais à la porte de la zone de contrôle. Mais le dernier voyage a anéanti le peu de courage qu'il lui restait. Dernier baiser, dernier signe de la main, puis, très vite, la machinerie bien huilée que nous avions mise en place s'est enrayée. Le vol a été retardé. Des heures à attendre sur un siège face à la porte d'embarquement, des heures à guetter le moment du départ, concentré, les yeux rivés sur le tableau d'affichage au milieu du bruit et de l'agitation. Puis une absence, dit-elle. Un trou noir. Elle n'a rien vu venir. Elle ne s'en souvient pas. Et lorsqu'elle a enfin osé demander, l'avion était parti depuis longtemps. Tard dans la nuit, seule, sans bagage, la panique, le désarroi, la honte de ne plus savoir. Ce sont de vaines humiliations que provoque l'oubli, des situations désagréables qu'engendre notre monde à 1000 à l'heure. Car si le corps de ma mère reste vigoureux, sa mémoire immédiate, celle qui la rendait forte, autonome, lui fait de plus en plus défaut, la mettant en panique, l'excluant d'une vie en mouvement, cloisonnant peu à peu son univers. C'est un handicap qui s'installe, et réduit son horizon, un handicap qui l'oblige à vivre un quotidien restreint, le seul qu'elle ose encore aborder. Dans cette nouvelle période de sa vie, les souvenirs ont une part importante. Elle y plonge comme on plongerait dans une mer connue et rassurante. Elle s'en abreuve et y trouve un bonheur chaque fois renouvelé. Ma colline. Alors que son présent s'éloigne, je vais la voir là où elle vit depuis presque 50 ans, là où notre histoire commune s'est écrite, notre histoire à quatre, quand nous étions une famille. Je traverse le sud de la ville, odeur d'herbes coupées et d'orangers, replongée instantanée dans l'enfance, mal de ventre, tant nous étions insouciants, heureux, sous le soleil de Rome, au milieu de ses ruines. Temps révolu, ville révolue. Un Indien en haillons est accroupi sur le trottoir aux abords d'une station-service. D'autres enfants grandissent sous le soleil bienveillant de la ville éternelle pendant que les migrants affluent en quête d'un peu de ce que nous avons eu. Notre enfance n'existe plus. Elle ressurgit alors que je ne m'y attends pas, sensation furtive, éphémère, douce et amère. Je gravis notre colline depuis le siège de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. L'odeur de glycine me confirme que je suis bien chez moi. Certaines choses éphémères et saisonnières sont immuables et rassurantes. L'Aventin, ce formidable terrain de jeu, a aussi inscrit en moi la conscience précoce de notre mortalité. Notre présence, notre bonheur, réduit aux strates invisibles qui se succèdent et se nourrissent des fragments millénaires sur lesquels nous avons joué, sur lesquels nous avons ri, pleuré, embrassé pour la première fois, fumé notre première cigarette, couru après le bus, fait notre premier tour en mobylette. J'en connais chaque recoin, chaque pierre, chaque morceau de trottoir cabossé. Chaque banc y a son histoire, chaque rue son secret, chaque porte cochère renferme le souvenir de ce que nous étions enfants, puis adolescents, enfin jeunes adultes. Courses effrénées dans le quartier, lits de camp installés sur la terrasse comme des navires pour nos batailles imaginaires, nous qui partions à l'abordage. Ballons remplis d'eau jetés depuis la fenêtre, sonates d'interphone sur lesquelles nous appuyions allègrement avant de prendre la fuite, cache-cache géant dont nous connaissions toutes les cachettes. Notre village, notre colline. Je ne croise pas d'enfants sauvages comme ceux que nous étions, toujours dehors, la tête dans les arbres ou installés sur le muret qui surplombe le Tibre. Ils sont propres, bien habillés et accompagnés d'une nounou exotique. Je dis « nous » parce que nous étions indissociables l'un de l'autre, mon frère, Jean Selim et moi. Nos vies était mêlé. Nous n'avions pas encore de trajectoire propre. Je dis « nous » parce que le « je » ne pouvait être que ponctuel, sans arrêt remis en cause par notre vie commune. Le « je » renvoyait à l'intime et viendrait plus tard. L'aventure de l'enfance, nous la vivions ensemble. Je monte en repensant à la petite fille que j'étais, et qui, au milieu des siens, mon frère et les amis du quartier, nos frères de cœur, grimpaient aux arbres, jouaient au foot et couraient poursuivis par le garde du parc dont nous avions abîmé les plates-bandes. Mais qui, loin d'eux, était plein de peur. Dans mes tentatives désespérées pour ressembler aux enfants parfaits, les croyants, les bons élèves, les sportifs, les rigolos, les bien dans leur peau, les bien habillés, les invités aux fêtes d'anniversaire, moi, la timide, la renfermée, la pleine de doutes. Moi qui aurais voulu être un peu moins ronde, un peu moins bouclée, un peu moins grande, un peu moins maladroite, un peu plus à l'aise avec moi-même et avec les autres. Moi qui cherchais une perfection qui n'existe pas, mais dont j'avais l'illusion. Quand mon frère, lui, était à l'aise en toutes circonstances, ne cherchait à ressembler à personne, bien avec lui-même et avec les autres. Il aimait la lumière, alors que je cherchais l'ombre. Deux faces d'une même pièce, chacun jouant parfaitement sa partition. Ensemble, il ne pouvait rien nous arriver. Sur notre colline, nous étions nous-mêmes. Santa Priccia. Je passe devant Santa Priccia, légèrement en surplomb, au fond d'une petite place à laquelle on accède pour entrer dans l'église en retrait. Santa Priccia, où nous sommes entrés ensemble, mon frère et moi, 18 et 16 ans, entourés de toute notre famille, le jour du remariage de ma mère. Vécu comme un adieu au père. Imaginions-nous, mon frère et moi, ce jour-là, dans cette église, quelques années après sa mort, qu'il reviendrait de cette île déserte où nous avions décidé de le faire vivre sans nous concerter. Mon frère avait-il déjà abandonné cette idée folle que nous partagions en secret? Quelque part, il était en vie. Mais pour une raison mystérieuse et nécessaire, il ne pouvait se manifester. Seule cette idée avait rendu supportable son absence. Nous refusions l'un et l'autre l'abstraction d'une mort à l'autre bout du monde, loin de nous, dans une province reculée de Chine, où il était en poste, rapatrié et enterré chez lui en Égypte, sans nous. Notre mère avait interdit que nous nous y rendions par peur que les lois égyptiennes, peu clémentes envers une femme et de surcroît étrangère, ne nous contraignent ensuite à rester sur place. Une mort lointaine, sans corps, sans cercueil, sans enterrement, un deuil impossible, privé de tout ce qui rend la mort palpable. Sans rituel, tout devenait possible, tout et n'importe quoi. Il avait dû disparaître, faire croire à sa mort, cela faisait sens. Il fuyait sans doute les services secrets israéliens, lui qui, selon la légende familiale, soutenait l'OLP et qui était sans doute un agent secret au sein des Nations Unies. Nous en faisions un aventurier. Cet anti-sportif, pas grand, pas mince, pas beau, était courageux, brillant et doux. Son héroïsme était ailleurs. Continuait-on alors de scruter la boîte aux lettres dans l'espoir qu'une lettre, une carte, un signe de lui nous parvienne? Ce mariage nous contraignait à ne plus y croire.
Week-end à Rome, tous les 200 personnes, Florence, Milan. S'il y a le temps, week-end tard, en bagnole de fortune, variette mélo, à la radio, week-end tard. week-end à Rome.
En liberté, Denis Flagel.
Après l'instant musical habituel, nous revenons à la lecture du roman Avant qu'elle s'en aille. La Nostra Via. Je m'apprête à tourner dans notre rue. Je voudrais retenir ces souvenirs que je chéris pour nous deux. Nous, les premiers petits romains d'une famille géographiquement éclatée, scellés par notre identité commune, nous, les seuls étrangers dans nos familles. Étrangers en France, en Égypte, en Italie, et tout cela à la fois. Scellés par cette appartenance qui nous était propre. Scellés par le reflet de l'autre, si différent et tellement proche. Alors que j'avance, je voudrais tant qu'il soit là, avec moi, pour se souvenir, pour ne pas être la seule dépositaire de notre histoire. Mais je le fais sans tristesse, car notre histoire est belle et je la prolonge à ma manière. Je retourne sur nos pas avec l'espoir que ma mère se souvienne, et si sa mémoire chancelle, que ses sens viennent à son secours. J'ai encore besoin qu'elle pallie les non-dits, les absences, les manques et les failles de nos existences. Je laisse, sur la gauche, la maison de Nino Manfredi, l'acteur de notre enfance. Pain et chocolat, nous nous sommes tant aimés. C'est la seule maison moderne du quartier. Elle fait face à notre rue, la plus belle à nos yeux. J'y accède en longeant sur le trottoir de droite de petits jardins qui se succèdent, des jardins communaux aux herbes trop hautes et aux buissons mal entretenus. Chacun de ces carrés végétaux sauvages possède quelques bancs blancs, pierres lisses, douces et fraîches, sur lesquelles faire une pause. J'y ai joué à la poupée, descendu tous mes playmobiles, j'y ai fait des parties de dames, de mille bornes, de batailles. Je m'en suis servi de cabane, de point de ralliement pour nos cache-cache et nos 1, 2, 3 soleils. Plus tard, j'y ai passé des heures à papoter en fumant des cigarettes avec mon amie Roberta. De l'autre côté de la rue, les immeubles, années 1930, aux belles façades, blanches, jaunes, ocre, cachent des escaliers majestueux et de vieux ascenseurs en bois. Au loin, lorsque vous montez dans les étages, Rome s'offre à vous. À l'arrière, c'est le cœur du quartier. L'intimité de ses habitants, chambres et cuisines, disputes et réconciliations, linge suspendu aux fenêtres, pain parasol au milieu des cours intérieures. Je traverse la rue pour longer les immeubles à l'ombre et passer devant cette petite rue perpendiculaire qui s'engouffre sous des arcades formées par les soubassements de deux édifices. C'est une ruelle toute cabossée, tout ombragé, qui mène sur une placette où face à face vivaient alors nos frères d'enfance et mon ami du bout du monde. Kin Giao a quitté le Vietnam par mauvais temps. Premiers exils, boat people, nouvelle vie romaine et nouveaux parfums à l'heure du goûter. Nem plutôt que tartine Nutella. Pénombre de cette maison louée meublée, rideaux fermés pour calmer les migraines de sa mère, tristesse du déracinement dans ses yeux. Notre colline offre un refuge. Elle ne protège pas de la mélancolie. Je ne prends pas cette rue-là, c'est un autre temps, celui de l'enfance. Je ralentis. Autre période, autre souvenir, celui de l'adolescence. L'adolescence est un cadeau et un fardeau pour les enfants qui se sentent différents. Elle a brisé mon insouciance, tout en m'ouvrant au monde, me plaçant au cœur de ma propre existence. Affranchie du regard des autres, prête à plonger dans la ville. Roberta. Je lève les yeux vers les fenêtres du premier étage. Je lance deux sifflements courts, un plus long, pour voir si je sais encore comment m'y prendre. Je souris. C'est comme l'odeur de la glycine et du mimosa, ça ne s'oublie pas. À ce signal, il y a plus de 30 ans, elle se met à la fenêtre et me crie « Squendo !» Chien en laisse et cheveux au vent. Roberta, aussi exubérante que je suis réservée, aussi plantureuse que je suis plate. Elle parle fort, rit fort, aime fort et sans partage. Je l'ai rencontrée juste après la mort de notre père. On m'avait offert un chien pour me consoler. C'est ce qu'on fait parfois avec les enfants lorsqu'ils ont du chagrin. Un petit chien pour lutter contre la tristesse, pour s'occuper, remplir la maison trop vide, les silences trop lourds. Nous avons donc une petite Fukia qui s'acquitte parfaitement de sa fonction consolatrice. Au même moment, Roberta et son collet à poils longs et au nez crochu entrent dans nos vies. Avec ma bâtarde, Drôle de mélange entre un basset et un cocker. Nous voilà tous les quatre inséparables, chiens et maîtresses, matin, midi, après-midi et soir. Ce sont les chiens les plus promenés du quartier. Et lorsque nous ne sommes pas dehors, je suis chez Roberta, ou elle, chez moi. Elle fuit sa famille étouffante. Je fuis le tsunami qu'a provoqué la mort de mon père. Chacun d'entre nous s'éloigne comme il peut. Chez elle, tout est rangé, ordonné, en place. Le thé est servi dans le salon, dans un service en porcelaine, et les repas sont pris en famille à heure fixe. Le chien dort dans l'entrée et n'accède pas aux autres pièces. Chez moi, on dîne sur la table de la cuisine, la vaisselle est dépareillée, on mange des surgelés et mon chien dort sur mon lit, laissé aller post-mortem. La famille de Roberta est mon repère momentané, sécurisant. Elda me prépare les plats que j'aime. Angelo nous accompagne lorsque nous sortons et nous attend pour nous ramener lorsque nous rentrons tard. Un soir où je suis dehors sans Roberta alors que je ne rentre pas, ma mère finit par l'appeler en pleine nuit. Il part à ma recherche, arpente les rues de la ville jusqu'au petit matin. Aucune remarque, aucun reproche le lendemain, ni jamais par la suite. Je sais qu'il veille sur moi, et il sait que c'est ce dont j'ai besoin. Nous y sommes presque. Je passe devant le dernier immeuble avant le nôtre, celui d'Enrico, le seul gardien de la rue à avoir gardé sa loge, confident, tout en bonté. Il est désormais plus voûté. Ses cheveux sont poivre et sel, son visage s'anime à mon approche, il retire les mains de ses poches, ouvre grand les bras pour m'embrasser, prend de mes nouvelles et m'en donne du quartier, puis, lorsque nous nous sommes salués, il remet les mains dans ses poches pour regarder de nouveau passer la vie devant sa porte cochère. Il est devenu le gardien de la rue entière, celui à qui on confie les clés et les secrets de voisinage, un pantalon à rapiécer autant qu'une joie ou une tristesse. Je m'arrête ensuite, quelques mètres plus loin, devant la grande porte cochère de mon enfance. Elle donne accès au hall de l'immeuble. 1000 fois, 10 000 fois, j'en suis sorti en courant et je suis revenu pour pousser la lourde porte et monter 4 à 4 les marches blanches qui conduisent au deuxième étage où nous habitions. Mais ce n'est pas là que je vais. Je vais chez notre voisin du rez-de-chaussée, avec lequel ma mère est mariée depuis presque 30 ans et chez qui on accède par une porte au bout de la rue. Lorsqu'on sonne, il y a toujours quelques touristes qui tentent d'entreapercevoir ce qui se cache derrière ces beaux murs anciens. Au-dessus de l'entrée, une petite terrasse à laquelle on s'accoude une fois par an pour voir passer le pape dans la rue le jour des rameaux. Je lève la tête. Regarde le ciel limpide, bleu, entre les grands pins parasols et les ocres des murs. Mon regard redescend. Une petite statue de la Vierge dans une niche protège le passant. Mais mon regard s'arrête sur le fronton qui coiffe la porte et sur lequel cette sentence accueille le visiteur. Omnium rerum vicissitudo est. Tout change. Rien n'est immuable. Cette lecture est terminée pour ce soir. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Lectures en Liberté en podcast sur bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.